Salut à tous, Jérémy Royot pour Scepticisme Scientifique. Et aujourd'hui, on reçoit Grégoire Perra. Salut Grégoire.
Salut.
Voilà, donc Grégoire Perra va nous parler de l'anthroposophie et des écoles Steiner-Waldorf. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose peut-être simplement de te présenter brièvement pour les auditeurs.
Oui, alors je suis prof de philosophie maintenant à l'éducation nationale, mais auparavant j'ai été pendant de nombreuses années professeur dans deux écoles Steiner-Waldorf, élève aussi dans une école Steiner-Waldorf, anthroposophe, c'est-à-dire appartenant à la société anthroposophique, qui est l'organisation qui s'occupe de diffuser les idées de Rudolf Steiner, qui est derrière la pédagogie Waldorf, c'est-à-dire une organisation basée sur une doctrine ésotérique. Et donc, moi, j'ai été là-dedans, j'en suis sorti, et c'est à ce titre-là que je témoigne.
Ok. Peut-être que tu peux peut-être expliquer dans les grandes lignes en quoi ça consiste finalement, cette doctrine.
Alors, c'est une doctrine en fait où il faut bien prendre garde de distinguer la manière dont elle se présente et ce qu'elle est en réalité. Parce qu'elle se présente comme quelque chose, ou elle est présentée comme quelque chose comme une doctrine humaniste, universaliste, avec des valeurs d'émancipation de l'individu. Ça, Steiner et ses disciples savent très bien le faire. Or, derrière, il y a en fait un ésotérisme, et un ésotérisme qui est une espèce d'amalgame de nombreuses croyances. Ça va du christianisme à l'hindouisme. Moi, je dirais que c'est un fatras de croyances, parce qu'il n'y a pas nécessairement de cohérence, hein, entre toutes ces idées. Par exemple, la réincarnation, le fait que le Christ soit descendu du soleil, que le Bouddha s'est réincarné sur Mars, que les gnomes font pousser les plantes, que la radioactivité a été provoquée par la résurrection du Fils de Dieu, que les blonds ont une intelligence supérieure à la moyenne, que les Noirs pensent avec leur cerveau arrière, etc., etc. Donc c'est un mélange d'anciennes croyances avec aussi une prétention à se présenter comme une science de l'esprit. Et la société anthroposophique possède une école de sciences de l'esprit où on est censé devenir clairvoyant, médium, mais de façon scientifique, pour explorer les mondes invisibles où il y a des anges, des archanges, des gnomes, etc., etc. Voilà, en résumé.
Okay. Juste pour replacer un peu historiquement, donc Rudolf Steiner, donc il est né en 1861, il est mort en 1925. Voilà, juste pour placer
Oui.
un peu le contexte historique.
Oui, alors c'était quelqu'un de très engagé dans sa jeunesse dans les mouvements pan-germanistes de l'Empire austro-hongrois, et avec des idées donc très réactionnaires, mais c'était aussi c'était un caméléon culturel. Donc il a eu ses idées, je pense qu'ils ne l'ont jamais quitté dans sa jeunesse, et puis il a réussi à se faire passer pour un progressiste et un gauchiste aux yeux de certains gauchistes de l'époque, comme Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, avec qui il avait une correspondance. Il a écrit un livre sur Nietzsche, donc il s'est revendiqué pendant un moment de l'individualisme nietzschéen. Puis il est rentré en même temps à la société théosophique fondée par Blavatsky. C'est là qu'il a commencé à devenir un gourou. Mais donc, il savait, c'est quelqu'un qui, tout en ayant un noyau en lui, hein, je pense, profondément dur et réactionnaire, savait donner le visage de quelqu'un de progressiste. D'où la difficulté, en fait, à percer à jour cette mouvance qu'est l'anthroposophie et les écoles Steiner-Waldorf.
Okay. Et donc après avoir fait un certain séjour dans la société théosophique avec Besant, donc suite à un certain conflit, il a fondé sa propre branche, entre guillemets, si j'ai bien compris.
La société anthroposophique est une scission de la société théosophique en 1913. Et là, Steiner s'est employé à, comment dire, changer complètement le vocabulaire qu'il utilisait auparavant et qui était le vocabulaire de Helena Petrovna Blavatsky, dans ses écrits. Mais c'est seulement un changement de vocabulaire. Et on dit souvent qu'il a christianisé la théosophie. Après, il faut voir quel est son Christ, hein. C'est pas le Christ traditionnel des églises.
Ok. Et donc peut-être que tu peux un peu nous expliquer finalement ton parcours en fait. Comment est-ce que tu es arrivé dans ces écoles? Est-ce que c'est parce que tes parents y étaient ou tes parents étaient eux-mêmes
Alors, mes
anthroposophes ou
parents,
théosophes ou...
non, pas du tout. Mes parents étaient cherchaient une pédagogie différente pour leurs enfants. On avait un peu dans la lignée de mai 68, hein, c'est-à-dire comment favoriser l'épanouissement de l'individualité et pour ça se tourner vers des pédagogies qui prétendent le faire. Et on avait dans notre entourage un ami de mon père qui avait mis ses enfants dans cette école et qui, comme beaucoup de parents qui ont mis leurs enfants dans ce genre d'école, deviennent très vite prosélytes. Ça se fait vraiment, insidieusement et très très vite. Donc, il a convaincu mon père et ma mère qui sont venus à une des kermesses de l'école. Et c'est vrai que c'est tellement enchanteur comme environnement. Qu'ils se sont facilement laissés convaincre, y compris par le discours de ces pédagogues. Donc, j'y suis rentré à l'âge de 9 ans, ma sœur également, et j'en suis sorti après le bac. Enfin, j'en suis sorti sans en sortir, puisque le travail de mes pédagogues anthroposophes avait été fait, c'est-à-dire que j'étais préformaté à devenir un anthroposophe. Et je le suis devenu, donc je suis allé à la société anthroposophique juste après être sorti de l'école Steiner. Je suis resté pendant des années sans me rendre compte vraiment de ce que c'était, même s'il y avait beaucoup de choses qui me gênaient. On trouve toujours des excuses à ce genre de choses. On arrive à nous faire penser qu'il y a des excuses à ces comportements qu'on peut observer quand on est anthroposophe, qu'on observe les autres anthroposophes. Et puis, je suis devenu professeur dans une de ces écoles, et là, j'ai vraiment vu ce que donnait une institution gérée par des anthroposophes, c'est-à-dire une organisation qui fonctionne de manière démentielle. Avec une organisation une structure qui rend les gens quasiment esclaves de leur institution. Je passais non seulement mes journées, mais aussi mes nuits et mes week-ends et mes vacances. Et puis, pour une efficacité quasiment nulle au niveau pédagogique. Et puis, petit à petit, surtout parce que j'avais un point de comparaison, j'enseignais en même temps à l'éducation nationale, mais petit à petit, j'ai commencé à réfléchir. Dans le même temps, j'étais aussi quelqu'un d'important dans la société anthroposophique à proprement parler, quelqu'un qui donnait des conférences, quelqu'un qui... C'est un grade, hein, supérieur de pouvoir donner des conférences dans cette institution, la société anthroposophique, c'est quasiment un grade de prêtre, même si le mot n'est pas dit. favori du président de la Société anthroposophique, favori du Goetheanum, c'est-à-dire du siège de la Société anthroposophique universelle qui se trouve en Suisse. Et puis, ben, moi, en même temps que je montais, mais sans vraiment le chercher à monter dans ces hautes sphères, eh ben, je continuais mon travail de réflexion sur l'anthroposophie elle-même, c'est-à-dire sur les textes de Steiner, et je menais à bien une réflexion qui s'avérait être une réflexion critique des fondements de la doctrine et puis aussi du comportement et de l'organisation de cette institution. Et c'est suite à cela, en fait, que j'ai d'abord posé ma démission, puis dit en et écrit en interne ce que je pensais, puis dit et écrit à l'externe, c'est-à-dire dans la revue de l'UNATFI, qui est la principale association de lutte contre les sectes en France, ce que j'avais compris et perçu de l'anthroposophie et des écoles Steiner-Waldorf. Ça m'a valu un procès en diffamation que j'ai gagné, puisque les juges ont reconnu que mon travail de réflexion était un travail honnête, modéré, tout à fait réfléchi et réalisé sans aucune rancœur ni animosité à l'égard de ces gens. C'était juste une volonté de comprendre ce qu'il en était vraiment. Et depuis la fin de ce procès, donc qui a eu lieu en 2013, eh bien, j'ai continué à écrire, à réfléchir et à écrire au sujet de ces écoles, de l'anthroposophie, notamment à travers un blog. Et non pas pour accuser ni incriminer qui que ce soit, mais parce que j'ai un vécu de 30 années dans ce milieu. Et que j'ai des choses à dire parce que j'ai observé et vu beaucoup de choses qui méritent d'être dites, parce que je pense que ça peut aider les gens qui tournent autour à comprendre ce qu'il en est vraiment et peut-être à éviter de vivre des choses déplaisantes que moi j'ai pu traverser.
Donc justement, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est que concrètement, qu'est-ce qu'il y avait de différent finalement entre ces écoles-là et puis les autres écoles de pédagogie alternatives, bien connues, genre Montessori, Freinet, etc.
La différence, c'est que ce n'est pas une pédagogie. Si je le dis de façon très synthétique, la pédagogie Waldorf n'est pas une pédagogie parce que son socle et ses buts ne sont pas l'épanouissement des enfants. C'est la transmission d'une doctrine. Plus exactement, pour comprendre la position des pédagogues anthroposophes, pour Rudolf Steiner, on ne peut pas devenir un homme au sens véritable du terme si on ne reçoit pas, à un moment donné dans sa vie, des idées spiritualistes ou plus exactement anthroposophiques. Et donc, il faut les leur transmettre par n'importe quel moyen. Mais évidemment, si c'était fait de manière ouverte et massive, ça se verrait. Et donc, on interdirait ces écoles, puisque on les identifierait immédiatement comme des lieux d'endoctrinement ouverts des élèves. Ce n'est pas le cas. Il y a endoctrinement, mais c'est un endoctrinement insidieux, difficilement détectable si on n'a pas été élève. De ces écoles d'une part et plus tard anthroposophes d'autre part. Parce qu'il n'y a qu'en ayant été également anthroposophes que l'on peut remarquer que les idées anthroposophiques sont glissées dans l'enseignement qui est dispensé dans les écoles Waldorf, mais de manière quasiment subliminale. Je détaille ça de façon très précise dans mon article paru sur le site de l'UNATFI, l'endoctrinement des élèves à l'anthroposophie dans les écoles Steiner-Waldorf. Donc, je donne un certain nombre d'exemples de ces pratiques. C'est très habile, C'est difficilement repérable pour un inspecteur, parce que ça va se faire sous forme d'allusion, sous forme d'analogie, sous forme de suggestion. Mais c'est efficace parce que ces idées vont s'imprégner dans les esprits des enfants. Alors, pas nécessairement de manière identifiable, c'est-à-dire que ces idées vont être présentes dans l'esprit des enfants, mais sans qu'ils en aient nécessairement conscience. Ce sont en quelque sorte des idées dormantes qui peuvent être réactivées le cas échéant. Et donc, tous les enfants qui sont dans ces écoles, qui vont passer par ces écoles, ne vont pas devenir, comme moi, des anthroposophes, mais ils vont avoir dans leur esprit un certain nombre d'idées, notamment des idées pseudo-scientifiques, puisque l'anthroposophie est une pseudo-science, qui va les rendre disponibles et favorables à toute une mouvance dont l'anthroposophie fait partie, c'est-à-dire le New Age.
Ok. Oui, d'ailleurs, quand on regarde un petit peu le parcours de Steiner, on voit que jusqu'à la fin de sa vie, il a continué à écrire des livres sur l'occultisme, sur les mémoires akashiques ou d'autres trucs très ésotériques, en fait. Ce
Pour
qui
lui,
fait
c'est
que c'est assez étonnant de voir que l'éducation nationale a donné son aval à une éducation qui est basée sur le travail d'un occultiste, en fait. Ça surprend un petit peu, quoi.
oui, parce qu'ils ont réussi à se présenter autrement depuis plus d'un siècle. Donc c'est un mensonge qui a la vie dure et la peau dure aussi. Et du coup, plus personne ne fait ce lien, pourtant effectivement complètement évident, entre Steiner l'occultiste, Fumeux le gourou aussi. Hein, faut aussi voir que c'est quelqu'un qui avait des pratiques sociales vraiment répréhensibles. Et puis ces écoles qui se fondent sur sa doctrine et avec des pédagogues qui vénèrent cet homme. Mais bon, ben ça, on peut aussi l'expliquer par l'indolence et le manque de sens de responsabilité de certains responsables. Hein. Moi, j'en
Oui,
ai
tout à fait.
rencontré, donc je peux en témoigner à titre personnel. Puis après, il faut comprendre que quand un mensonge prend à grande échelle, il devient très difficile à remettre en question.
Tout à fait.
Donc ça a pris en Allemagne. Il y a énormément d'écoles Steiner-Waldorf en Allemagne. Ça a pris, ça n'a pas été remis en question. Donc c'est devenu une institution établie. Et puis ça a pu essaimer comme ça partout dans le monde parce qu'on ne voyait pas comment il pouvait être possible que tout un pays se fasse avoir. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est une duperie. Mais c'est possible. C'est possible.
Ok. Et quand tu as commencé à avoir certaines critiques par rapport à la pédagogie, entre guillemets, ou au mouvement, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait un dialogue possible au sein du mouvement ou pas du tout? Ou quelle est leur réaction par rapport à la remise en question?
Ah, alors c'est très drôle cette question de la remise en question chez les anthroposophes, parce que elle peut parfois prendre des visages très paradoxaux. La plupart de mes critiques, je les ai écrites et publiées chez eux. Alors on pourrait se dire chez eux, c'est-à-dire dans la revue. Au départ, hein, en tout cas, dans la revue de la Société anthroposophique en France, qui s'appelle Les Nouvelles, et puis également quelques-unes dans leur revue publique. Bon, alors on pourrait se dire, bah, ils ont l'esprit ouvert. Pas du tout. C'est qu'ils ne me comprenaient pas quand ils me lisaient. Ils ne voyaient pas les critiques que je pouvais faire quand ils me lisaient. Parce que je maniais très très bien les concepts anthroposophiques, parce que j'étais un des leurs. Donc c'était inimaginable pour eux qu'un des leurs pose un certain nombre de critiques. Il faut dire aussi que moi, j'ai mis énormément de temps à comprendre que les travers et les dysfonctionnements que j'observais étaient dus à Steiner. Pour moi, il y avait Steiner, Rudolf Steiner, l'être bon et qui avait bien pensé les choses au départ, et ses disciples qui avaient dévoyé le message. Et c'est comme ça qu'en fait, beaucoup d'anthroposophes qui perçoivent des choses qui ne vont pas arrivent à supporter de voir ces choses-là tout en restant anthroposophes. Parce qu'ils voient des dysfonctionnements, mais ils se disent, mais c'est pas Steiner qui a voulu ça. Ça, c'est une chose qui m'a été dite en conférence quand j'ai exposé mes critiques chez eux, à la Société anthroposophique. C'est pas Steiner qui a voulu ça. Mais quand on y réfléchit un tout petit peu, c'est par exemple, c'est Steiner qui a fait réciter des mantras de lui aux élèves, ce qu'on appelle les paroles, au début de chaque journée de cours dans les écoles Steiner-Waldorf. C'est bien lui qui a fait ça. Moi, si je fondais une école et que je fasse réciter mes poèmes aux élèves en début de chaque cours, vous me diriez immédiatement, mais vous vous comportez comme un gourou. Eh ben, pourquoi on ne le fait pas pour Steiner? C'est la même chose, c'est lui qui a institué tout ça. Et quand on lit un ouvrage qui est très peu connu, qui s'appelle Les conseils de Rudolf Steiner au professeur de la première école de Stuttgart, on voit que non seulement il leur a donné l'organisation de ce genre d'école, mais qu'il leur a montré comment endoctriner les élèves de façon non visible, et aussi comment duper les parents. Il y a des conseils très précis où Steiner dit textuellement, si vous voulez tromper les gens, les duper, vous allez leur parler comme ci, comme ci et comme ça. Et ça, dans tous les domaines de de la vie scolaire. Ça, y compris, par exemple, pour la rédaction des bulletins. Il leur dit textuellement, bon alors, pour recruter le maximum d'élèves et pour répandre l'anthroposophie, car il le dit aussi textuellement, le but c'est de ces écoles, c'est de donner, de permettre au mouvement anthroposophique de devenir un grand mouvement, il le dit. Si vous voulez recruter le maximum d'élèves, donc, et convaincre les parents, eh bien, il faut rédiger des bulletins trimestriels qui soient les plus élogieux possibles. C'est-à-dire que même les défauts de vos élèves, vous allez en parler sous forme de qualité. Les parents vont être tellement fiers de leurs enfants que, évidemment, ils vont les laisser à l'école. Et ils vont endormir tout esprit critique. Ça, c'est dit par Steiner. Il y a quelqu'un qui s'appelle Roger Rowling, aux États-Unis, qui a un site également, Waldorf Watch, et qui a lu l'intégralité de ces conseils de Rudolf Steiner et qui montre très bien comment la tromperie était en fait une tromperie organisée, consciente hein, de sa part, consciente. Elle n'est pas toujours consciente de la part de tous les pédagogues anthroposophes, mais chez lui, c'était conscient. Et du coup, comme c'est une organisation où l'on est les disciples de quelqu'un, eh bien, on répète ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. C'est pour ça que ça perdure à l'identique depuis un siècle, y compris les méthodes de tromperie.
Oui, j'ai vu qu'il y avait aussi un côté assez tentaculaire à ce mouvement, dans le sens où il a investi d'autres sphères que celle de l'éducation. Tu peux peut-être nous en dire quelques mots, hein. Je sais qu'il y a les cosmétiques, notamment, il y a du côté de l'agriculture, ils ont aussi investi un peu les choses.
Il y a tous les domaines de la vie. L'anthroposophie, c'est la doctrine, mais après, il y a les institutions connexes et les applications. Et ça peut concerner tous les domaines de la vie. Alors, effectivement, Le domaine le plus connu, c'est l'agriculture biodynamique. On en parle partout en ce moment dans les médias, les vins biodynamiques, etc. Alors, ils se font passer pour du bio, mais c'est pas du tout du bio. La biodynamie, c'est faire de l'agriculture en fonction des forces cosmiques du zodiaque, des influences de la Lune, faire des incantations en tuant des mulots et en répandant leurs cendres sur les champs pour éloigner la vermine, pour convaincre l'esprit de la vermine de s'éloigner des champs. Donc c'est une pratique magico-religieuse. Donc il y a la biodynamie, mais il y a aussi la finance. Alors il y a deux banques connues, qui sont la Nef en France et Triodos en Espagne, qui appliquent, enfin qui disent appliquer les préceptes économiques de Rudolf Steiner. Alors ça se présente comme quelque chose de solidaire, le principe d'une économie solidaire, mais c'est pas le cas du tout. C'est communautaire, c'est pas solidaire. Et puis la biodynamie, la finance, la médecine, la cuisine, la botanique, la sexualité, tous les domaines de la vie peuvent devenir anthroposophiques. C'est pas très compliqué. Il pourrait y avoir des plombiers anthroposophiques, c'est tout à fait possible. Il y a même des techniques d'épuration des eaux anthroposophiques. C'est après, est-ce que ça marche? C'est autre chose. Mais l'idée, c'est de créer une nouvelle civilisation. De la même façon qu'il y a une civilisation islamique, il pourrait y avoir une civilisation anthroposophique. C'est le but, en tout cas.
Oui, en tout cas, au niveau des actualités, on voit qu'il y a quand même régulièrement des actions ou des dérives qui sont observées. Rien que sur le site de UNADFI, par exemple, en préparant un petit peu au sujet ce matin, j'ai vu qu'au Canada, il y avait une école qui avait perdu son statut à cause de ce qu'elle enseignait, qu'en Suisse, il y en avait une autre où les médecins scolaires avaient essayé de forcer les enfants à consulter un médecin anthroposophique sous peine d'exclusion. Il y a quand même pas mal d'actualités finalement autour de ce mouvement qui regarde des faits qui sont parfois inquiétants, quoi.
Oui, le problème, c'est que à chaque fois que des faits de cet ordre se produisent, les écoles Steiner-Waldorf et les anthroposophes arrivent à les faire passer pour des cas isolés, en disant, mais c'est pas du tout représentatif de notre mouvement. Nous, on se comporte pas comme ça. C'est l'erreur d'une école isolée, d'un individu isolé. Or, pas du tout. Pas du tout, ce sont des, moi je peux en témoigner, ce sont des comportements classiques dans ce genre de milieu, voire même des actes qui répondent à des exigences et des indications de Rudolf Steiner. Par exemple, il y a eu un fait divers il y a quelques années, dans une école Steiner suisse, une élève qui avait dit un juron. L'enseignante l'a prise et lui a lavé la bouche avec du savon noir. Évidemment, les parents, là, ont réagi quand, parce que les parents réagissent pas beaucoup dans ce genre d'école, parce qu'ils arrivent à, ils sont endormis, hein, ils laissent passer des choses énormes, mais là, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a eu réaction, il y a eu plainte. Et l'école a dit, ah, mais le geste de cette enseignante est tout à fait déplacé, ne correspond pas du tout à quelque chose de représentatif de notre pédagogie qui est non coercitive, non violente, etc. Or, quand on regarde bien, quand on lit Steiner et ses conseils, on voit qu'il s'agit précisément d'un conseil que Rudolf Steiner donne. Et il dit, pour nettoyer le corps astral d'un enfant qui a le corps astral infecté par des jurons, eh bien, le meilleur moyen, c'est de lui laver la bouche avec du savon à chaque fois qu'il fait ça. Alors, évidemment, il n'avait pas recommandé de le faire de force, mais dans l'esprit d'un pédagogue anthroposophe, de toute façon, faire quelque chose de force ou par séduction, c'est quasiment la même chose. C'est le respect de la liberté, c'est pas quelque chose qui les préoccupe énormément, même s'ils disent se réclamer d'un ouvrage de Steiner qui s'appelle Philosophie de la liberté. Sa philosophie de la liberté, c'est surtout la liberté de n'avoir aucun compte à rendre à personne, ni aux lois.
Ok. Et donc quand tu as donc commencé un peu à changer tes idées par rapport à tout ça, est-ce qu'il y avait des gens autour de toi qui faisaient la même chose? Est-ce que t'as croisé d'autres personnes dans ton environnement, dans les où tu travaillais, qui aussi se posaient des questions ou n'étaient pas forcément en accord avec les idées?
Oui, mais jamais au point de remettre en question l'ensemble du système. Il y a un système de garde-fous, en fait. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, où on ne va pas aller jusqu'à remettre en question ni Rudolf Steiner, ni l'anthroposophie en tant que telle. Éventuellement, on arrive, pour certains, j'en avais rencontré, à remettre en question l'organisation actuelle qui aurait dévié par rapport à Steiner. Mais jamais l'anthroposophie elle-même, ni Steiner lui-même. Et quand on voit des dysfonctionnements dans une école, ce que s'empressent de vous dire les autres anthroposophes, c'est ah ben oui, mais c'est cette école. C'est ailleurs, c'est différent. Puis quand vous vous rendez compte qu'en fait c'est partout pareil en France, on vous dit oui, mais c'est en France. En Allemagne, c'est pas la même chose. Puis quand vous vous rendez compte que c'est aussi la même chose en Allemagne, on va vous dire, ouais, mais dans les pays du Nord, un peu plus au Nord, là, par contre, ils ont vraiment réussi à faire la pédagogie Waldorf authentique, comme Steiner l'avait voulu, etc., etc. C'est-à-dire que tout cas, toute observation de dysfonctionnement est systématiquement, et c'est très habile, ramenée à des cas particuliers. Alors que ce n'est pas un problème de cas particulier, c'est un fonctionnement généralisé. Les écoles Steiner-Waldorf sont des copies les unes des autres. Et quand je dis des copies, sont des copies, y compris sur le plan physique. C'est la même architecture, c'est les mêmes décors, c'est les mêmes peintures des murs, c'est les mêmes voilages, c'est les mêmes cours, à la minute près pour certains, donnés aux enfants. Il se présente comme une pédagogie créative, innovatrice, où on respecte la liberté de l'enseignant, etc. Je peux le dire, j'ai fait la formation de professeur des écoles Steiner-Waldorf. Ce n'est que la répétition à l'identique, jusque dans les détails, hein, jusque dans les détails de la forme des chaises, de comment on doit meubler une classe, ou ce genre de choses, ou quel chant on doit faire avec les élèves, c'est la même chose qu'on répète à l'identique depuis plus de 90 ans. Ça m'est apparu de façon particulièrement saillante quand j'ai fait un voyage au Brésil, que j'avais déjà publié mon article. Et donc au Brésil, j'ai été invité dans une école Steiner-Waldorf et on m'a pas reconnu. Et puis on m'a montré des choses où je me suis dit, mais c'est pas possible. Ce sont exactement les mêmes pratiques que moi j'ai vécues en tant qu'élève en France, que j'ai observées en Allemagne et ailleurs. Ce sont exactement la même chose. C'est-à-dire, il faut comprendre que c'est une entreprise de colonisation planétaire. C'est vraiment de la colonisation. C'est pas pour rien que Steiner était pan-germaniste dans sa jeunesse. Ce qu'on m'a dit au Brésil, hein, quand les directeurs et les pédagogues se sont confiés à moi tout à fait ouvertement, alors ils nous expliquaient comment ils trichaient, hein, vis-à-vis de l'État, comment ils bernaient les inspecteurs, là-bas aussi. Et donc effectivement, c'était les mêmes pratiques en France, donc vous pouvez comparer. Ah, vous faites comme ça, vous, pour berner l'inspecteur, ben, nous aussi, on le trompe de cette manière-là. Et puis, nous expliquer également que les comment dire, pour revenir à mon idée du pan-germanisme, quand des Allemands venaient dans leur école, des pédagogues anthroposophes allemands venaient dans leur école et leur donnaient des conseils, C'était comme si des apôtres venaient dans une communauté donner des directives. Hein. Il s'agissait de les écouter, même quand c'était complètement incohérent et aberrant par rapport à la situation du pays. C'est vraiment une entreprise de colonisation pan-germanique, occultiste, mondiale.
Okay. Et par rapport à tout ça, donc quand tu as vraiment changé un peu tes idées, est-ce que ça a été difficile pour toi de quitter tout ça? Je pose cette question-là parce que souvent je pense que dans ce type de courant, une fois que justement, comme tu disais, une fois qu'on est arrivé à un poste assez important, une fois qu'on s'est vraiment investi pendant des années, qu'on y a vraiment une place, le coût à payer pour le quitter, c'est vraiment très important. Ce qui fait que les gens, même quand ils se posent des questions, ont probablement tendance souvent à les ignorer et à essayer de rester dans leur truc et continuer à faire la même chose, quoi. Donc est-ce que ça a été difficile pour toi de quitter tout
Alors,
ça?
il y a eu effectivement un coût. Le premier coût, c'est le coût intellectuel. Et ça n'a pas pu se faire du jour au lendemain. C'est pas un changement brusque. C'est quelque chose qui se conquiert par étapes. Parce qu'il faut arriver à remettre en question intellectuellement l'anthroposophie. Moi, j'avais un avantage, c'est que j'avais fait des études de philosophie. Et j'ai réfléchi philosophiquement à l'anthroposophie, et c'est comme ça que j'ai pu voir que derrière cette pseudo-philosophie, cette pseudo-épistémologie de l'anthroposophie, en fait, il y a beaucoup de vent, il n'y a pas grand-chose. Et ça, il fallait du temps, il fallait creuser, il fallait réfléchir. Bon, j'en avais les possibilités et je l'ai fait. Mais ça, c'était le premier coup, ça n'a pas été facile. Et le deuxième coup, effectivement, il est émotionnel, il est psychique, c'est-à-dire, c'est quitter sa famille, c'est rien de moins que quitter sa famille, quitter tous les amis, tous les gens qui constituaient mon univers affectif jusqu'à présent. Et quand je dis coup, c'est nécessaire. C'est-à-dire, si on reste, même de façon lointaine, lié à des gens qui appartiennent à ce milieu, ils vont chercher à vous y ramener. Même s'ils sont pas professeurs dans une école de Waldorf ou dirigeants du mouvement anthroposophique, même s'ils sont très à la marge, ils vont quand même, par sympathie vis-à-vis de tout ça, parce que l'anthroposophie a su créer des sympathies lointaines, c'est l'intelligence et la ruse de ce mouvement, même chez des gens qui ne la connaissent pas très bien, ils vont chercher à vous y ramener. Donc il faut absolument couper avec toute forme de relation avec des individus qui ont encore un pied ou même un orteil dans le milieu anthroposophique, sinon, vous y serez ramené. Donc évidemment, ça c'est douloureux, c'est quelque chose qui est pénible à réaliser, mais que je savais absolument nécessaire, que j'avais compris la nécessité de la chose. Ce qui m'a avantagé aussi, c'est que je j'ai jamais été quelqu'un de vénal. Parce que évidemment, il y avait aussi l'argent qui aurait pu me retenir, hein, et la position élevée qu'on m'avait offerte et que j'aurais pu conserver si j'avais voulu. Une position élevée chez les anthroposophes, c'est un peu d'argent, c'est pas mal de pouvoir, c'est beaucoup de reconnaissance et tout ce qui va avec. Bon, moi, ça me coûtait pas trop de l'abandonner. C'est pas quelque chose que, du fait de mon tempérament, c'est pas quelque chose qui me coûtait. J'ai préféré la vérité et mon intégrité à ça.
Okay. C'est un témoignage vraiment intéressant, en tout cas, voir un peu tout ton parcours. Est-ce qu'il y a encore des points importants que tu aimerais transmettre aux auditeurs par rapport à tout ce qu'on a abordé?
Moi, tu sais, je réponds aux questions qu'on me pose, hein. J'ai écrit énormément sur mon blog, donc si les gens se posent des questions, je pense qu'ils pourront y trouver pas mal de réponses. Je dis pas toutes, mais qu'est-ce que j'aurais envie de dire aujourd'hui, maintenant, sur mon parcours dans ce mouvement et sur l'anthroposophie elle-même? Peut-être que des mouvements comme celui-ci nous obligent et obligera de plus en plus, m'a obligé et je pense obligera de plus en plus la civilisation dans son ensemble à toujours se poser la question de la surface, des apparences et de ce qu'il y a véritablement derrière. Ce sont des gens, et c'est un mouvement qui sait présenter un visage, un masque des plus attrayants. Et pour percer ce qu'il y a derrière, ben, il faut savoir réfléchir, il faut savoir voir derrière les apparences, et ça, je regrette qu'il y ait peu de gens qui sachent le faire, hein. Les anthroposophes ont un boulevard devant eux à cause de la crédulité généralisée. Et ça m'attriste profondément. C'est une chose que j'aurais envie de dire, qu'il faudrait vraiment, alors, on pourrait dire renforcer le sens critique, mais le mot est un peu faible. En tout cas, apprendre à voir qui sont vraiment les gens, à un niveau individuel, comme à un niveau plus large, associatif ou organisationnel, voir qui sont vraiment les gens au-delà de ce qu'ils présentent. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et je vais m'arrêter là dans ce que j'ai envie de dire, c'est que ce mouvement, cette duperie, cette tromperie, qui fait courir des dangers aux enfants et de manière plus large à toute personne qui s'approche de ce milieu. Ce mouvement donc pose une autre question à la civilisation qui est quel est notre rapport à la science? L'anthroposophie, c'est quelque chose qui a pu se développer parce que derrière, il y a une haine et une peur profonde de la science, des changements de façon de penser que la science provoque dans la vie. On a du mal à devenir des êtres véritablement scientifiques. Et l'anthroposophie joue là-dessus. Elle joue sur cette peur profonde, sur cette mutation de l'homme qui passe d'une mentalité religieuse. Alors, je ne dis pas que la religion est une chose mauvaise en soi, mais la mentalité religieuse, c'est un type de rapport au monde. Et on passe de ce type de rapport au monde à un autre qui est basé sur l'exercice de la raison dans le cadre de la science. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez défendu, à mon sens, parce que ce que je vois, moi, partout, quand j'observe autour de moi, c'est le triomphe du New Age. C'est cette idéologie réactionnaire qui génère une façon de penser confuse et dangereuse qui est en train de triompher partout, dans les élites, comme dans la population. Et c'est ça le défi que l'anthroposophie pose. Est-ce qu'on va être capable de modifier notre façon de penser de manière à devenir authentiquement scientifique, savoir utiliser notre raison de manière non mystique, non métaphysique, j'aurais envie de dire, c'est-à-dire en essayant de comprendre les faits en eux-mêmes et par eux-mêmes. Ça, c'était insupportable pour Steiner. Qu'on abandonne le mode de pensée religieux, c'était quelque chose d'insupportable, et donc il a inventé l'anthroposophie comme une manière de prendre par surprise la science et la civilisation moderne et de les ramener au Moyen Âge. Parce que le but, c'est ça, hein, c'est de ramener la civilisation au Moyen Âge.
Ok. Merci pour cette conclusion très à propos. Je pense que ça sera un parfait mot de la fin pour conclure cet épisode. Voilà, j'en profite aussi. Tout ce que tu m'as dit m'a fait penser un petit peu à Nietzsche, puisque Rudolf Steiner est un grand fan de Nietzsche. Ça m'a rappelé une citation qui est aussi à propos par rapport à tout ça, c'est une citation dans Humain trop humain où Nietzsche disait: Le public confond facilement celui qui pêche en eau trouble avec celui qui puise en eau profonde. Voilà, je pense que c'est souvent le cas avec le New Age où ça donne une illusion d'intérêt ou de pertinence, et quand on va voir derrière, il n'y a pas forcément grand-chose à part du vide ou des idées ésotériques. Voilà, sur ce, je te dis donc merci d'avoir participé. Je pense que c'était très intéressant pour les éditeurs et pour moi aussi. Et je mettrai différents liens sur la page du podcast pour ceux qui veulent retrouver les sources, les différentes sources dont on a parlé, ton blog notamment, et d'autres choses. Voilà, en tout cas, merci
Eh bien,
beaucoup.
de rien.
Et à
Au
bientôt.
revoir.